Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation.
Salut Éric.
Salut Ronan.
On continue notre tour de table des figures historiques liées à la gastronomie française. J'ai une devinette pour le spécialiste que tu es. Qui a prononcé cette célèbre phrase ?
Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot.
Trop facile, Ronan. On l'attribue cette phrase à Henri IV.
Bingo, il aurait prononcé cette phrase à la fin du XVIe siècle lors d'une conversation avec le duc de Savoie. Depuis, la poule au pot est associée à jamais à son nom dans l'imaginaire collectif français. Éric, c'est une légende ou pas ? Henri IV a vraiment démocratisé la poule au pot ?
Eh bien non, une fois de plus, désolé Ronan. Oui, parce que les historiens doutent fortement de la véracité de cette histoire. La citation qu'on vient d'entendre n'a pas été rapportée du vivant d'Henri IV, mais plus de 50 ans après sa mort. Et pour être tout à fait précis, elle a été mentionnée par un évêque, Ardoin de Péréfix, dans un ouvrage qui a été imprimé en 1664. Ce livre, dans lequel est citée la fameuse phrase, s'intitule « Histoire d'Henri le Grand ». Alors il faut savoir que cet ouvrage avait un but pédagogique qui était d'instruire le jeune roi Louis XIV, dont Ardoin de Péréfix était le précepteur. Et donc on peut supposer que cet Ardoin cherchait à convaincre le futur roi Soleil de suivre l'exemple de son grand-père Henri IV, en étant bienveillant envers son peuple, en voulant qu'il puisse manger de la volaille de temps en temps, pas tous les dimanches. Ça n'est que deux siècles plus tard que Louis XVIII fera compléter la phrase par « tous les dimanches ». Là encore, ce petit ajout avait un but politique, montrait que la monarchie française avait toujours su être proche de son peuple. Bon, ceci dit, qu'il ait ou non été prononcé, ce vœu de la poule au pot symbolise vraiment la volonté, mais bien réelle celle-là, la volonté d'Henri IV de redonner sa vitalité à une France qui était sortie exsangue de 40 années de guerre de religion.
Comment se nourrissaient les Français à cette époque ?
Alors, si on fait exception des élites sociales, les nobles, les notables, et que l'on considère les 95% des Français qui étaient des paysans ou des humbles travailleurs des villes, là, ce qu'on peut dire, c'est que leur alimentation n'avait pas beaucoup changé depuis des siècles. Le socle de leur ration alimentaire était surtout constitué par les céréales, froment, c'est-à-dire blé, et surtout seigle, orge, millet, que l'on consommait sous forme de pain ou de galettes, de bouillies. Pour te donner une idée, Ronan, en moyenne, c'était 1,5 kg de pain pour un homme adulte. Mais bon, il y a eu quand même quelques évolutions dans cette charnière où nous sommes, entre le XVIe et le XVIIe siècle, donc le règne du bon roi Henri, comme on l'appelait. Alors c'est par exemple l'introduction du maïs américain, d'abord dans le Béarn, le lieu de naissance d'Henri IV, puis dans le sud-ouest du royaume et en Bresse. Et puis, il y a les céréales, mais il ne faut pas oublier d'y ajouter les légumes secs, donc les pois chiches, les lentilles, les fèves, et ça c'est une autre nouveauté américaine, des haricots, hein, tout juste débarqués du Nouveau Monde. Et puis, il y avait aussi, pour les paysans, les légumes frais du potager, quelques fruits, dans certaines régions des châtaignes, du sarrasin ou blé noir sur les terres pauvres, et pas seulement en Bretagne d'ailleurs. Et puis, il ne faut pas les oublier non plus, des herbes sauvages qui étaient cueillies dans la nature.
Et la viande ?
Eh bien, les aliments d'origine animale, et donc plus particulièrement la viande, sont souvent absents, tout au moins dans les repas du quotidien. Et puis les jours maigres, les catholiques sont contraints par l'Église de manger du poisson. Le plus souvent des harengs séchés lorsqu'on est loin des côtes. Et puis, bah, tu sais bien, dans l'ouest de la France, le climat doux est un peu arrosé. Et les verts pâturages permettent de disposer de lait de vache.
On dit qu'Henri IV est un passionné d'agriculture et qu'il comprend parfaitement les difficultés du travail de la terre.
Oui, c'est vrai. Et le monarque ne ménage pas ses efforts pour que son royaume retrouve la prospérité. L'agriculture, c'est sa priorité. C'est vrai que c'est, de très loin, le premier secteur économique du royaume, puisqu'il emploie près de 90% des Français de l'époque. Et Henri IV, comme tous les gouvernants depuis la nuit des temps, il sait bien qu'une production céréalière insuffisante, et donc l'incapacité du peuple à se nourrir, eh bien c'est une menace pour la paix sociale et pour son propre pouvoir. Donc sa première décision, ça va être de rétablir la sécurité dans les campagnes, car beaucoup de mercenaires des armées catholiques et protestantes se sont reconvertis après les guerres de religion dans le braquage des paysans. Enfin, Henri IV va exhorter les nobles à retourner sur leurs terres de province, à les mettre en valeur plutôt que de gaspiller leur argent pour paraître à la cour. Et certains aristocrates vont devenir de véritables « gentlemen farmers » avant l'heure et vont se passionner à leur tour pour les expérimentations agronomiques qu'un certain agronome ardéchois, Olivier de Serres, met en œuvre.
Est-ce qu'on peut dire qu'Henri IV était un gourmet ?
Eh bien, l'historien André Castelot racontait dans son livre intitulé « L'histoire à table, si la cuisine m'était comptée », racontait qu'Henri IV n'était pas un gros mangeur et encore moins un mangeur raffiné. Alors Castelot disait d'Henri IV qu'il adorait les huîtres, le fameux pâté de la Tour d'Argent, le vin d'Ailly en Champagne et tous les produits de la chasse et plus particulièrement, il raffolait de l'ail.
Merci Hélène. Le goût de l'ail, justement, ça doit lui rappeler son baptême.
Oui, alors je vois, Ronan, tu dis ça à cause d'une tradition béarnaise qui, effectivement, a été rapportée par plusieurs chroniqueurs de l'époque. À peine né, le petit Henri est déposé dans les bras de son grand-père, qui lui frotte les lèvres avec une gousse d'ail et qui lui fait respirer, pas boire, hein, respirer, une coupe de vin, probablement du vin de Jurançon, le vin local. C'était une pratique courante, dont le but était de prévenir les maladies. Mais en réalité, c'est encore une idée reçue, il ne s'agissait pas du baptême religieux d'Henri IV qui, lui, aura lieu quelques semaines plus tard.
Son deuxième mariage, celui avec Marie de Médicis, a apparemment été un grand spectacle.
Spectacle, oui, c'est le mot qui convient à Ronan. Ça se passait en l'an 1600 à Florence, en Italie. Pour organiser ce banquet de mariage, on a fait appel à un artiste toscan de grand talent, très réputé, qui était à la fois architecte, ingénieur militaire, sculpteur et peintre. Il s'agissait du bien nommé Bernardo Buontalenti. Il concevait également des réjouissances au cours desquelles les invités pouvaient découvrir des automates étonnants, des jeux d'eau fantastiques, des feux d'artifice incroyables, des décors éblouissants qui étaient changés plusieurs fois au cours de la soirée. Et donc là, pour les noces d'Henri IV avec Marie de Médicis, le talentueux Buontalenti décide de faire les choses en grand. Donc il va transformer de fond en comble la salle de réception. Il fait insérer des miroirs dans les tables et donc ces derniers pouvaient tourner, refléter la fête sous des angles différents. Au mur, il fait accrocher des portraits des invités qui ont été peints, bien sûr, par les meilleurs artistes florentins de l'époque. Et donc de cette façon, les participants à la noce pouvaient voir leur image non seulement dans les miroirs, mais aussi dans les toiles.
Original.
Oui, et quant aux plats proposés aux convives, ils étaient tout aussi stupéfiants que les décors. Les cuisiniers se sont improvisés sculpteurs le temps d'une soirée. Alors ils ont proposé, je cite, des jambons coupés en forme de coq, des pâtés de veau en forme de sanglier, ou encore une gelée en forme de cloche avec un poisson vivant à l'intérieur.
C'était complètement démesuré ce mariage.
Ah bah oui, complètement. Ah, une petite précision, Ronan, que je ne t'ai pas encore donnée. Henri IV n'était pas présent à ce fastueux dîner de noces. Ah. Oui, en réalité, il s'agissait que du premier temps des cérémonies où le souverain a d'abord épousé Marie de Médicis, mais par procuration. Oui, le roi de France était en guerre, il n'a pas eu le temps de traverser les Alpes. Mais je te rassure, une nouvelle cérémonie de mariage aura lieu quelques mois plus tard à Lyon, cette fois-ci en présence d'Henri IV.
Ok, la morale de l'histoire, c'est qu'avec ou sans roi, on ne se privait pas pour faire de superbes fêtes. On termine comme d'habitude avec l'explication d'une expression liée à la gastronomie. Si je te dis qu'au mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, les invités ont bu à tire-larigot, qu'est-ce que tu comprends, Eric ?
Eh bien, qu'ils ont bu jusqu'à plus soif. Alors, le larigot, c'était un instrument de musique, une petite flûte. Or, jadis, flûter voulait dire boire. Donc, larigot égale flûte, égale flûter, égale boire. Quant à tire, tu connais le proverbe. Quand le vin est tiré,
il faut le boire.
Voilà, tirer signifiait sortir un breuvage du tonneau pour le boire rapidement. Bon, mais il y a une autre hypothèse. Tu connais la magnifique cathédrale gothique de Rouen qui abrite une cloche que l'on nomme la Rigaud parce qu'elle a été offerte par l'archevêque Eudes Rigaud à la fin du XIIIe siècle. Alors il paraît que pour la faire sonner, pour la mettre en mouvement, il fallait 12 hommes et qu'une somme d'argent était prévue pour pouvoir offrir du vin au gros bras qui était chargé de tirer la Rigaud, c'est-à-dire de faire sonner la grosse cloche. Et donc après cet effort, il pouvait boire du vin sans aucune modération.
Donc à nous de choisir notre version préférée. Merci beaucoup Eric et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cuisinons l'Histoire.
À bientôt Ronan.